Chapitre 9. On se dit adieu, mais au revoir. La veille du jour où elle devait monter, la grand-maman avait encore écrit pour qu'on fût bien sûr au chalet qu'elle arrivait. Ce fut Pierre qui apporta la lettre de grand matin en se rendant au pâturage. Le grand-père et les deux fillettes étaient déjà dehors. Blanchette et Brunette attendaient aussi devant le chalet et secouaient gaiement leur tête à l'air matinal pendant que les enfants les caressaient en leur souhaitant bon voyage pour leur ascension. Le vieux, debout près d'elle, regardait tantôt ses jolies chèvres aux poils nets et luisants, tantôt les frais visages penchés sur elle. Les uns et les autres devaient lui plaire, car il souriait d'un air satisfait. À ce moment, Pierre apparut. En apercevant le groupe réuni devant le chalet, il s'avança lentement, tendit la lettre au vieux, et dès que celui-ci l'eut entre les mains, il recula d'un air tout effarouché, et tourna vivement la tête comme s'il avait eu peur de quelque chose derrière lui. Puis d'un bond, il s'éloigna du côté du pâturage. « Grand-père !» demanda alors Heidi, qui avait suivi cette scène avec étonnement. « Pourquoi Pierre fait-il toujours maintenant comme le grand Turc quand il aperçoit le fouet derrière lui ?»« Il commence par reculer, puis il secoue la tête de tous les côtés, et tout à coup, il se met à faire de grands sauts en l'air. » « Peut-être que Pierre aperçoit aussi derrière lui le fouet qu'il mérite, » répondit le grand-père. Pierre gravit ainsi, d'un seul trait, toute la première pente. Mais dès qu'on ne put plus l'apercevoir d'en bas, il changea d'allure. Il s'arrêtait à chaque instant, tournait la tête de tous les côtés d'un air craintif. Puis tout à coup, il faisait un grand saut et regardait derrière lui aussi effrayé que si quelqu'un l'eût saisi au collet. Derrière chaque buisson, derrière chaque haie, Pierre s'attendait maintenant à voir surgir l'agent de police de Francfort, tout prêt à lui sauter dessus. Plus cette tension d'esprit durait, plus sa terreur augmentait. Heidi, cependant, songea à mettre le chalet en ordre, afin que toutes choses fussent bien à leur place quand la grand-maman arriverait. Clara trouvait très amusant de voir l'activité de Heidi, allant et venant dans tous les coins et recoins, et elle avait toujours un plaisir tout particulier à la regarder faire. Ainsi occupés, les enfants virent s'écouler sans s'en apercevoir les premières heures de la matinée, et le moment fut bientôt venu où l'on pouvait attendre l'arrivée de la grand-maman. Clara et Heidi, toutes prêtes à la recevoir, sortirent alors et s'installèrent sur le banc devant le chalet, dans l'attente des événements. Le grand-père arriva aussi. Il avait fait une tournée dans les environs et rapportait un gros bouquet de gentiane bleu foncé, si richement coloré aux rayons du soleil matinal, qu'à leur vue les enfants poussèrent des exclamations de joie. De temps en temps, Heidi quittait sa place en courant pour examiner le sentier et voir si l'on n'apercevait pas encore le cortège de la grand-maman. Enfin, il apparut, gravissant lentement la montagne dans l'ordre que Heidi avait prévu. Devant marchait le guide, puis venait le cheval blanc monté par Madame Sesemann. Enfin derrière, le porteur avec sa grande hotte, car la grand-maman tenait décidément à ne pas s'aventurer sur l'Alpe sans avoir bien pris toutes ses précautions. Les voyageurs s'approchaient peu à peu, enfin ils atteignirent le sommet. La grand-maman aperçut les enfants du haut de son cheval.
« Qu'est-ce que cela signifie? Que vois-je, Clara? Tu n'es pas dans ton fauteuil !» s'écria-t-elle, tout effrayée, en mettant pied à terre aussi vite que possible. Mais elle avait à peine fait quelques pas qu'elle joignit les mains en disant avec émotion « Ma petite Clara, est-ce bien toi que je vois? Tu as des joues roses et toutes rondes, mon enfant. Je ne te reconnais plus. »
Et elle voulut se précipiter vers Clara. En un clin d'œil, Heidi avait glissé du banc. Clara s'était vite appuyée sur son épaule. Et voilà les deux enfants qui se mettent tout tranquillement en route, comme pour faire une petite promenade. La grand-maman s'arrêta court, saisie de frayeur et croyant pour le coup que Heidi entreprenait quelque grande extravagance. Mais quel spectacle sous ses yeux! Clara, droite et ferme sur ses pieds, cheminait côte à côte avec Heidi, et toutes deux avaient des visages rayonnants et des joues roses. Alors la grand-maman accourut précipitamment au-devant d'elle. Riant et pleurant à la fois, elle serra Clara dans ses bras, puis Heidi, puis de nouveau Clara, suffoquée par la joie et ne trouvant pas de paroles pour exprimer ce qu'elle sentait. Tout à coup, ses regards tombèrent sur le vieux de l'Alpe qui, debout, à côté du banc, les contemplait toutes trois avec un sourire de satisfaction. Glissant alors le bras de Clara sous le sien, elle s'avança vers le banc en poussant de continuelles exclamations de ravissement à l'idée de pouvoir ainsi marcher avec l'enfant à ses côtés. Puis abandonnant le bras de Clara, elle saisit avec force les deux mains du vieillard. « Mon cher grand-père, mon cher grand-père, que ne vous devons-nous pas? C'est votre ouvrage, ce sont vos attentions, vos soins, et le soleil du bon Dieu, et l'air de l'Alpe, » interrompit le vieux avec un sourire.
« Oui, et aussi le bon lait de Blanchette, » s'écria à son tour Clara. « Grand-maman, si tu savais comme je bois le lait de chèvre et comme il est délicieux. »
« En effet, je le vois bien à tes joues, ma petite Clara, » répondit la grand-maman en riant.
« Non, en vérité, c'est à ne pas te reconnaître. Te voilà devenue grasse et ronde, comme je ne me serais jamais attendue à te voir. Et comme tu as grandi, Clara, est-ce possible? Je ne peux pas me lasser de te regarder. Mais à présent, je vais télégraphier sur le champ à mon fils, à Paris, qu'il vienne tout de suite, sans lui dire pourquoi. Ce sera la plus grande joie de sa vie. Mon cher grand-père, comment allons-nous envoyer cette dépêche? Vous avez sans doute congédié les hommes. »
« Ils sont repartis, » répondit-il. « Mais si madame la grand-maman est pressée, nous ferons descendre le chevrier, il a le temps. » Madame Sesemann, ayant insisté pour envoyer sans tarder un télégramme à son fils qu'elle ne voulait pas priver un jour de trop du bonheur qu'il attendait, le grand-père s'avança un peu à l'écart et fit entendre entre ses doigts un coup de sifflet si perçant qu'il alla réveiller l'écho jusque tout en haut dans les grands rochers. Peu de temps après, Pierre, qui connaissait bien ce signal, arriva en courant et tout pâle de terreur. Il pensait que le vieux l'appelait pour le faire comparaître, mais on lui remit simplement un papier sur lequel la grand-maman avait tracé quelques lignes. Le grand-père lui expliqua qu'il n'avait qu'à descendre à Durfli et remettre ce papier à la poste et dire que le vieux lui-même s'acquitterait du paiement, car on ne pouvait pas charger Pierre de tant de choses à la fois. Il s'éloigna donc, son papier à la main, fort soulagé pour le quart d'heure de ce que le grand-père ne l'avait pas fait comparaître et de ce qu'aucun agent de police n'était arrivé de Francfort. Quand il fut parti, on put s'asseoir tranquillement autour de la table devant le chalet, et Madame Sesemann se fit raconter tout ce qui s'était passé depuis le commencement. Elle apprit comment le grand-père avait d'abord obtenu de Clara de se tenir chaque jour un peu sur ses jambes et de les remuer doucement, comment ensuite on était monté au pâturage après que le vent avait précipité le fauteuil en bas de la montagne. Comment Clara, dans son désir d'aller voir les fleurs, s'était lancée à faire les premiers pas, et ainsi de suite. Ce récit des enfants dura longtemps, car la grand-maman les interrompait à chaque instant par des exclamations de surprise et des actions de grâce, et ne cessait de s'écrier. « Mais est-ce bien possible? N'est-ce point un rêve? Sommes-nous bien tous éveillés? Est-il vrai que nous voici assis devant le chalet et que l'enfant aux joues rondes et fraîches que j'ai devant moi est ma pâle et faible Clara d'autrefois ?» Et chaque fois, Clara et Heidi éprouvaient une joie nouvelle en voyant que leur surprise pour la grand-maman avait si bien réussi et que l'effet en durait toujours. Monsieur Sesemann, cependant, ayant terminé ses affaires à Paris, avait aussi de son côté voulu ménager une surprise à Clara. Un beau matin, sans avoir écrit un mot à sa mère, il avait pris le train pour venir coucher à Bâle, et dès le lendemain de bonne heure, il était reparti, rempli d'un immense désir d'aller retrouver sa fille dont il avait été séparé tout l'été. Il arriva à Ragaz, quelques heures après le départ de sa mère, et fut très réjoui d'apprendre qu'elle était précisément montée au chalet ce jour-là. Il prit aussitôt une voiture qui les mena d'abord à Mayenfeld. Là, ayant appris que l'on pouvait monter en char à Durfli, il se fit conduire jusqu'au hameau, pensant bien que l'ascension à pied serait toujours suffisamment longue pour lui. M. Sesemann ne se trompait pas. Cette montée continue le fatigua bien vite, et le chemin lui parut bien long. Il n'avait pas encore aperçu le moindre chalet, et pourtant, il savait par des descriptions de Heidi qu'à mi-hauteur, il devait rencontrer la cabane de Pierre le chevrier. On voyait partout des traces de piétons, et à certains endroits, ces petits chemins se croisaient dans toutes les directions. M. Sesemann commençait à se demander s'il était sur la bonne route, et si la cabane ne se trouvait point située de l'autre côté de la montagne. Il regarda tout alentour pour voir s'il ne découvrirait pas quelque être humain auprès de qui s'informer du chemin. Mais le plus grand silence régnait partout, mais rien n'apparaissait auprès, ni au loin. Par intervalles seulement, le vent de la montagne élevait un léger murmure. Les moucherons bourdonnaient au soleil et de temps en temps, un gai petit oiseau sifflait du haut d'un mélèze solitaire. Monsieur Sesemann fit halte un moment pour laisser la brise des Alpes rafraîchir son front brûlant. Soudain, il aperçut un personnage qui arrivait en courant du sommet de la montagne. C'était Pierre, sa dépêche à la main. Il descendait tout droit devant lui, en dehors du sentier battu. Dès qu'il fut à portée de la voix, Monsieur Sesemann lui cria d'approcher. Pierre obéit à l'appel et s'avança, tout effarouché, hésitant. La démarche chancelante, traînant une jambe derrière lui, comme s'il n'en avait qu'une bonne. « Allons, mon garçon, arrive donc !» lui cria M. Sesemann d'un ton encourageant. « Maintenant, dis-moi un peu, est-ce que par ce chemin j'arriverai au chalet où demeure le vieux, avec la petite Heidi, chez qui sont dans ce moment les gens de Francfort ?» Pour toute réponse, Pierre fit entendre un son étouffé qui lui arrachait un indescriptible effroi, puis il se reprit à courir, avec des enjambées si démesurées qu'il dégringola le long de la montagne en exécutant une série de culbutes involontaires, exactement comme le fauteuil quelques jours auparavant, sauf qu'heureusement pour lui, Pierre ne se brisa pas en mille morceaux. La dépêche seule fut fort maltraitée et vola en lambeaux. « Singulière timidité des montagnards !» se dit M. Sesemann, s'imaginant tout de suite que la seule apparition d'un étranger avait produit une si forte impression sur le simple enfant des Alpes. Puis, après avoir quelque temps encore suivi des yeux la violente descente de Pierre, M. Sesemann se remit en route. Malgré tous ses efforts, Pierre ne parvint pas à trouver un point d'appui pour reprendre son équilibre, et il continua de rouler en faisant de temps en temps une culbute plus prononcée que les autres. Mais ce n'était pas le côté le plus terrible de sa situation. Quelque chose de bien pire le remplissait de crainte et d'horreur. Ne venait-il pas de voir de ses propres yeux l'agent de police de Francfort? Car il n'avait pas mis un instant en doute que l'étranger qui s'était informé des gens de Francfort en séjour chez le vieux ne fût ce personnage redoutable lui-même. Enfin, au moment où il allait franchir la dernière pente au-dessus de Dörfli, Pierre rencontra un buisson auquel il ne put se cramponner, et il demeura un moment étendu à terre, immobile, pour reprendre ses esprits.
« Bon, encore un !» dit une voix tout près de lui. « Autour de qui ce sera demain de recevoir une poussée et de nous dégringoler de par là-haut, comme un sac de pommes de terre mal cousues ?»
Celui qui raillait de la sorte était le boulanger de Dörfli. Ayant éprouvé le besoin d'interrompre ses occupations échauffantes et de prendre un peu l'air, il avait été témoin de la dégringolade de Pierre qui, en effet, n'était pas sans analogie avec celle du fauteuil. En un clin d'œil, Pierre fut sur ses pieds. Nouvelle terreur. Voilà que le boulanger savait maintenant que le fauteuil avait dû recevoir une poussée. Sans retourner une seule fois la tête, Pierre se mit en devoir de remonter la montagne. Il aurait bien préféré, dans ce moment, rentrer à la maison et se glisser inaperçu dans son lit où personne ne saurait le trouver. C'était là qu'il se croyait toujours le plus en sûreté. Mais ses chèvres étaient encore au pâturage, et le vieux de l'Alpe lui avait fortement enjoint de revenir un peu vite afin de ne pas laisser le troupeau seul trop longtemps. Or, Pierre avait plus peur du vieux que de qui que ce fût, et tel était son respect pour lui qu'il n'aurait jamais osé lui désobéir dans la moindre des choses. Il continua donc son chemin, puisqu'il le fallait. Mais il ne courait plus. Les secousses variées qu'il venait de subir n'avaient pu demeurer sans effet, et ce fut en boitant et geignant qu'il se traîna le long du sentier de l'Alpe. Peu après sa rencontre avec Pierre, M. Sesemann avait atteint le premier chalet, et sûr alors d'être sur la bonne voie, il avait continué son chemin avec un nouveau courage jusqu'à ce qu'enfin, après une longue et pénible ascension, il vit apparaître le but tant désiré. Au-dessus de lui s'élevait le chalet de l'Alpe derrière lequel les vieux sapins balançaient leur sombre feuillage. M. Sesemann attaqua avec entrain le dernier bout du sentier, plus raide que le reste, en se réjouissant de surprendre sa fille. Mais il avait déjà été aperçu et reconnu de loin, et on lui préparait à lui-même une surprise à laquelle il était loin de s'attendre. Lorsqu'il atteignit le haut de la montée et posa le pied sur l'Alpe, il vit deux personnes s'avancer à sa rencontre. L'une d'elles était une grande jeune fille aux cheveux blonds et à la figure toute rose, qui s'appuyait sur la petite Heidi, dont les yeux foncés lançaient des éclairs de joie. Monsieur Sesemann, saisi, s'arrêta court et regarda fixement le groupe qui s'approchait. Puis soudain, les larmes jaillirent de ses yeux. Que de souvenirs lui montaient au cœur. C'était ainsi qu'il avait connu autrefois la mère de Clara, la blonde jeune fille aux fraîches joues roses. Monsieur Sesemann ne savait plus s'il veillait ou s'il rêvait.
« Papa, ne me reconnais-tu pas ?» lui cria alors Clara toute rayonnante. « Suis-je donc bien changée ?»
Monsieur Sesemann se précipita vers sa fille et la serra dans ses bras.
« Oui, tu es changée. Est-ce possible ? Est-ce une réalité ?»
Et le bienheureux père recula d'un pas pour s'assurer que cette image ne disparaîtrait pas de devant ses yeux.
« Est-ce toi, ma petite Clara ? Est-ce vraiment toi ? » répétait-il, sans se lasser de la contempler.
Puis il serrait son enfant dans ses bras et la regardait encore, comme s'il ne pouvait croire que la jeune fille, debout, devant lui, fut réellement sa Clara. La grand-maman arriva à son tour, impatiente de jouir du bonheur de son fils.
« Eh bien, mon cher fils, que dis-tu de tout cela ? » s'écria-t-elle en s'approchant. « Tu nous as fait une bien jolie surprise, mais celle qui t'attendait ici est encore plus belle, n'est-ce pas ?»
Et l'heureuse mère serra affectueusement les mains de son fils dans les siennes.
« Maintenant, mon cher ami, ajouta-t-elle, viens avec moi saluer le grand-père, qui est notre plus grand bienfaiteur à tous. »
« Ah, certainement. Et il faut aussi que je dise bonjour à notre petite amie Heidi, » dit-il, tendant la main à l'enfant. « Eh bien, est-on toujours en bonne santé sur l'Alpe ? Mais il n'y a pas besoin de le demander. Tu es plus fraîche qu'une rose des Alpes.
J'en suis bien heureux, enfant. J'en suis vraiment bien heureux. »
Heidi, les yeux brillants, regardait toute joyeuse l'aimable monsieur Sesemann. Il avait toujours été si bon pour elle. Et la pensée qu'il était venu sur l'Alpe pour y trouver un pareil bonheur faisait bondir le cœur de l'enfant. La grand-maman mena alors son fils auprès du vieux. Ils se serrèrent cordialement la main et M. Sesemann exprima au grand-père sa profonde gratitude et sa surprise à la vue du miracle dont il était témoin. La grand-maman, qui avait déjà entendu tous les détails de l'affaire, les laissa en parler tout au long et s'éloigna un peu pour faire encore une visite au vieux sapin. Une nouvelle surprise l'y attendait. Au pied des arbres, juste à l'endroit où les longues branches s'écartaient un peu et laissaient un espace libre, resplendissait une énorme touffe des plus magnifiques gentianes bleu foncé, aussi fraîches et aussi éclatantes que si elles eussent poussé sur place. Elle joignit les mains d'admiration.
« Que c'est délicieux ! Quelle belle fleur ! Oh, le charmant coup d'œil ! Heidi, ma chère enfant, arrive ici ! Est-ce toi qui as préparé cette jolie surprise à mon intention ? C'est vraiment magnifique !»
Les enfants étaient accourus.
« Non, non, ce n'est pas moi, » dit Heidi. « Mais je sais bien qui l'a fait. »«
C'est tout à fait comme au pâturage, grand-maman, sauf que c'est encore plus beau là-haut, » dit Clara à son tour. « Devine qui est monté le matin pour te chercher ces fleurs. »
Et Clara souriait d'un air si réjoui que la grand-maman se demanda un instant si, après tout, ce ne serait point l'enfant elle-même qui était allée jusque-là. Mais non, la chose était impossible. À ce moment, un léger bruit se fit entendre derrière les sapins. C'était Pierre qui revenait de sa malencontreuse expédition. Ayant reconnu à distance la personne avec laquelle le vieux de l'Alpe s'entretenait devant le chalet, il avait fait un détour et se glissait derrière les sapins dans l'espoir de passer inaperçu. Mais la grand-maman le reconnut, et sa vue lui suggéra une nouvelle idée. Ne serait-ce point Pierre qui aurait apporté ses fleurs et qui cherchait maintenant à se dérober par excès de timidité et de modestie ? Dans ce cas, il méritait certainement une petite récompense, et il ne fallait pas le laisser échapper.
« Viens vers moi, mon garçon, approche, n'aie pas peur !» lui cria Madame Sesemann en avançant la tête entre les sapins.
Pierre s'arrêta, pétrifié d'horreur. Après tout ce qui s'était déjà passé, il n'avait plus aucune force de résistance. Il ne sentait distinctement qu'une chose. À présent, tout est découvert. Ses cheveux se dressaient sur sa tête, et, pâle de terreur, il sortit lentement de derrière les arbres.
« Avance donc sans détour !» lui disait la grand-maman pour l'encourager. « À présent, mon garçon, dis-moi un peu, est-ce toi qui as fait cela ? »
Pierre ne leva pas les yeux et ne vit pas ce que Madame Sesemann lui désignait du doigt. Il venait d'apercevoir, au coin du chalet, le vieux de l'Alpe dont les yeux gris étaient fixés sur lui avec un regard perçant, et à ses côtés l'objet de sa plus grande terreur, l'agent de police de Francfort. Tremblant de tous ses membres, il fit entendre une sorte de « oui » étouffé.
« Eh bien, qu'y a-t-il de si terrible ?»
dit la grand-maman.
« C'est qu'il est en pièces, et qu'on ne peut plus le raccommoder, »
articula-t-il avec peine, tandis que ses genoux tremblaient au point qu'il ne pouvait presque plus se soutenir. La grand-maman s'avança alors vers l'angle du chalet.
« Mon cher grand-père, ce pauvre garçon a donc décidément le cerveau un peu dérangé ?»
demanda-t-elle pleine de compassion.
« Pas du tout, » répondit le vieux de l'Alpe. « Seulement ce garnement n'est autre que le coup de vent qui a chassé le fauteuil, et il s'attend à recevoir la punition qu'il a bien méritée. »
Madame Sesemann ne voulait pas le croire. Elle ne lui trouvait pas l'air méchant et ne comprenait pas quelle raison il aurait pu avoir pour détruire le fauteuil si indispensable à Clara. Mais l'aveu inarticulé du chevrier n'avait été pour le vieux que la confirmation d'un soupçon qu'il avait eu dès le premier moment après l'accident du fauteuil. Les regards courroucés que Pierre avait toujours jetés à Clara et d'autres preuves de son animosité envers les hôtes de l'Alpe n'avaient point échappé au vieux. En rapprochant les faits, il en était venu à la conclusion qu'il venait de communiquer à la grand-maman et qu'il lui expliqua ensuite en détail. Dès qu'il eut achevé, Madame Sesemann prit la parole avec la plus grande vivacité.
« Non, non, mon cher grand-père, nous ne punirons pas davantage ce pauvre garçon. Il faut être juste. Voilà des étrangers qui tombent un beau jour sur l'Alpe, qui le privent pendant des semaines de Heidi son plus grand bien, un précieux bien en vérité. Et lui, resté seul, n'a que la vue de ce qui se passe jour après jour. Non, non, soyons justes, je vous dis. La colère l'a saisi et l'a entraîné à une vengeance un peu absurde, il est vrai. Mais la colère ne nous ôte-t-elle pas toujours la raison ? »
En disant ces mots, la grand-maman retourna auprès de Pierre, toujours immobile et frissonnant de terreur. Elle s'assit sur le banc au pied des sapins et lui parla d'un ton amical.
« Allons, mon garçon, viens ici devant moi. J'ai quelque chose à te dire. Cesse de trembler et d'avoir peur. Et écoute-moi, je le veux absolument. Tu as précipité le fauteuil en bas de la montagne pour qu'il fût mis en pièces. C'était une mauvaise action, tu le savais bien, et tu savais aussi que tu méritais une punition. Et pour éviter cette punition, tu as dû te donner toute la peine du monde pour que personne ne s'aperçût de ce que tu avais fait. Mais vois-tu, celui qui fait le mal et qui croit que personne ne le sait se trompe tout à fait. Le bon Dieu, lui, voit et entend tout, et quand il s'aperçoit que quelqu'un cherche à cacher une mauvaise action, il réveille dans son cœur la petite sentinelle qu'il a mise là dès sa naissance et qui dort jusqu'au jour où cet homme fait le mal. La petite sentinelle a à la main un aiguillon avec lequel elle pique sans cesse le cœur de celui qui a mal fait, et il n'a plus un instant de paix. Sa voix aussi tourmente le méchant en lui répétant toujours et toujours « On va le découvrir, tu vas être puni !» Et le méchant vit ainsi dans la crainte et l'angoisse, et il ne peut plus jamais être joyeux, plus jamais. N'est-ce pas ce qui t'est arrivé cette fois, Pierre ?
Pierre, écrasé par ces paroles, fit un signe affirmatif, mais de l'air d'un connaisseur, car c'était exactement comme cela que les choses s'étaient passées pour lui.
Et puis, tu t'es trompé dans tes calculs d'une autre manière encore,
continua la grand-maman.
Vois comme le mal que tu as fait s'est changé en bien pour celle à qui tu voulais nuire. C'est parce que Clara n'avait plus de fauteuil et voulait cependant voir les belles fleurs qu'elle a fait l'effort nécessaire pour marcher, qu'elle y est parvenue et qu'elle va mieux de jour en jour. Et si elle reste ici, elle pourra finir par monter chaque jour au pâturage, donc bien plus souvent qu'elle n'aurait pu le faire dans son fauteuil. Vois-tu comme tu t'es trompé, Pierre ? C'est ainsi que le bon Dieu peut prendre en main la mauvaise action de l'un et la changer en bien pour l'autre, à qui elle devait nuire. Et alors, le méchant seul emporte toute la peine. As-tu bien compris tout cela, Pierre ? Eh bien, pense-y maintenant, et chaque fois que tu auras la tentation de faire quelque chose de mal, Songe à la petite sentinelle que tu as là, dans le cœur, avec un aiguillon pointu et sa voix désagréable. Veux-tu faire cela et ne pas l'oublier ?
Oui, je veux, répondit Pierre, toujours fort abattu, car il ne savait pas encore comment tout cela finirait, l'agent de police étant toujours là à côté du vieux.
Eh bien bon, c'est une affaire entendue, conclut la grand-maman, mais je veux que tu aies un souvenir des gens de Francfort, quelque chose qui te fasse plaisir. Dis-moi, mon garçon, n'as-tu jamais rien désiré? Qu'aimerais-tu avoir, voyons?
Pierre releva la tête et fixa sur la grand-maman le regard stupéfait de ses grands yeux ronds. Jusque-là, il s'était attendu à quelque chose de terrible, et au lieu de cela, voilà qu'il allait recevoir la chose qu'il aimerait le mieux. Toutes ses idées étaient bouleversées.
« Oui, oui, c'est sérieux, » répéta Madame Sesman. « Tu auras ce que tu voudras, quelque chose qui te fasse plaisir en souvenir des gens de Francfort et comme gage qu'ils veulent t'oublier ce que tu as fait de mal. » « Comprends-tu maintenant, mon garçon ?»
Peu à peu, en effet, cette pensée se fit jour dans l'esprit de Pierre, et il commença à saisir qu'il n'avait plus aucune punition à redouter et que cette bonne dame assise devant lui l'avait sauvé des mains de l'agent de police. Il éprouva un soulagement aussi grand que si on lui eût ôté du cœur le poids d'une montagne. Mais comme il venait aussi de comprendre qu'il vaut mieux avouer tout de suite ce qu'on a fait de mal, il dit tout à coup.
J'ai aussi perdu le papier.
La grand-maman réfléchit un instant, puis elle saisit la liaison de ses idées et dit avec bonté.
Bon, bon, tu as raison de le dire. Il faut toujours confesser tout de suite ce qui n'est pas bien. Alors, tout rentre dans l'ordre. Et maintenant, qu'est-ce que tu désires ?
Pierre allait donc pouvoir demander n'importe quoi, et il le recevrait. Il en eut presque le vertige. Il vit passer devant ses yeux toute la foire de Mayenfeld avec les plus belles choses qu'il avait souvent contemplées des heures entières et qui avaient toujours paru inaccessibles à ses moyens, car la fortune de Pierre n'avait jamais dépassé un sou et les objets si souvent convoités coûtaient presque toujours le double. Il y avait les beaux fouets rouges qui lui seraient si utiles pour ses chèvres, puis ses couteaux à lame arrondie appelés crapaudins, à l'aide desquels on pouvait faire de fameuses affaires dans les haies de noisetiers. Pierre demeurait plongé dans une profonde méditation, se demandant lequel, du fouet ou du couteau, était le plus désirable, et il ne parvenait pas à prendre une décision. Il eut enfin une idée lumineuse qui lui permettrait de réfléchir jusqu'à la foire prochaine.
« Deux sous, » répondit-il, d'un ton bien décidé.
La grand-maman sourit.
« Ce n'est pas un souhait exagéré. Eh bien, viens vers moi. »
Elle sortit sa bourse et en tira un gros écu rond sur lequel elle déposa encore 2 pièces de 2 sous.
« Maintenant, faisons notre calcul, » continua-t-elle. « Écoute ce que je vais t'expliquer. Cela fait autant de fois 2 sous qu'il y a de semaines dans l'année. De sorte que chaque dimanche de l'année, tu pourras dépenser 2 sous. »
« Toute ma vie ?» demanda Pierre fort innocemment. Cette fois, Madame Sesman eut un tel accès d'hilarité que son fils et le vieux interrompirent leur entretien pour écouter ce qui se passait.
« Eh bien, c'est entendu, mon garçon. J'en ferai une clause de mon testament. »« As-tu compris, mon fils ? Cela passera ensuite dans le tien. À Pierre le Chevrier, 2 sous par semaine, tant qu'il vivra. »
Monsieur Sesman donna en riant son assentiment. Quant à Pierre, il s'assura encore, par un regard de la réalité, du présent qu'il tenait dans la main. Puis il s'écria
« Merci !» et s'enfuit à toutes jambes, cette fois sans perdre l'équilibre, car ce n'était plus la terreur qui le poussait, mais une félicité qu'il n'avait encore jamais goûtée de toute sa vie. Toutes ses angoisses étaient passées et il allait recevoir 2 sous par semaine, sa vie durant. Plus tard, lorsque la société réunie devant le chalet de l'Alpe eut terminé le joyeux dîner et que la causerie générale se prolongeait sur toutes sortes de sujets, Clara saisit la main de son père, qui était de plus en plus rayonnant, et lui dit avec une animation toute nouvelle chez elle.
« Oh, papa, si tu savais tout ce que le grand-père a fait pour moi, tellement qu'on ne peut pas le raconter, mais je ne l'oublierai jamais. Je pense toujours à ce que je pourrais donner au bon grand-père pour lui faire bien plaisir. » Quand ce ne serait que la moitié autant qu'il m'en a procuré.
C'est aussi mon plus grand désir, cher enfant, répondit le père. J'ai déjà bien réfléchi à ce que nous pourrions faire pour exprimer en quelque mesure notre gratitude à notre bienfaiteur. Monsieur Sesemann, s'étant levé, s'avança vers le vieux, qui était assis à côté de la grand-maman avec laquelle il s'entretenait. Il se leva à son tour. Monsieur Sesemann lui saisit la main et lui dit de la manière la plus affectueuse.
« Mon cher ami, écoutez-moi. J'ai deux mots à échanger avec vous. Vous me comprendrez si je vous dis que depuis des années, je n'avais plus goûté une seule vraie joie. Qu'étaient pour moi tous mes biens et tout mon argent en face de ma pauvre enfant qu'aucune richesse ne pouvait guérir et rendre heureuse. Après Dieu, c'est vous qui avez rendu à mon enfant la santé et une nouvelle vie pour elle et pour moi. Maintenant, dites-moi comment puis-je vous témoigner ma reconnaissance. Vous rendre tout ce que vous avez fait pour nous, c'est impossible. Mais tout ce qui est en mon pouvoir est à votre disposition. Parlez, mon ami, que puis-je faire ? » Le vieux avait écouté sans mot dire en regardant l'heureux père avec un sourire de satisfaction.
« Monsieur Sesemann peut bien penser que j'ai aussi ma part de la joie que cette guérison sur notre Alpe lui procure. Elle compense bien ma peine, » dit le vieux avec sa fermeté habituelle. « Je remercie Monsieur Sesemann de ses offres bienveillantes, mais je n'ai besoin de rien. Tant que je vivrai, j'aurai assez pour l'enfant et pour moi. Mais j'ai un désir, et s'il pouvait m'être accordé, il ne me resterait plus aucun souci pour cette vie.
« Parlez, parlez, mon cher ami, » dit M. Sesemann d'un ton pressant.
« Je suis vieux, » continua le grand-père, « et je ne resterai plus longtemps ici. Quand je partirai, je n'ai rien à laisser à l'enfant. Elle n'a plus de parents, sauf une seule personne qui chercherait à en tirer profit. Si M. Sesemann voulait me donner l'assurance que Heidi ne sera jamais obligée d'aller chez des étrangers gagner son pain, il m'aurait largement rendu ce que j'ai pu faire pour lui et pour sa fille.
« Mais mon cher ami, il ne se peut jamais en être question, » s'écria M. Sesemann. « Cet enfant est à nous. Demandez à ma mère, à ma fille, jamais, tant qu'elles vivront, elles ne remettront à d'autres la petite Heidi. Cependant, si cela peut vous tranquilliser, mon ami, voici ma main, vous avez ma parole. Jamais cet enfant n'ira chez des étrangers pour gagner son pain. J'y pourvoirai, même au-delà de ma vie. Écoutez ce que j'ai encore à vous dire. » Il est clair que cette petite n'est pas faite pour vivre loin de la maison. Quelles que puissent être les circonstances, nous en avons eu la preuve. Mais elle s'est fait des amis. J'en connais un à Francfort qui, dans ce moment, met ordre à ses affaires pour pouvoir aller ensuite où il lui plaira et se reposer le reste de ses jours. C'est mon ami le docteur qui viendra cet automne vous demander conseil pour s'établir dans la contrée, car il sait plus dans votre société et dans celle de Heidi plus que nulle part ailleurs. Voyez donc que l'enfant aura dorénavant deux protecteurs auprès d'elle. Puissent-ils tous deux lui être conservés encore bien longtemps ?«
Dieu le veuille !» ajouta la grand-maman.
Et pour exprimer son assentiment aux paroles de son fils, elle secoua un grand moment la main du vieux avec beaucoup de cordialité. Puis tout à coup, elle passa son bras autour du cou de Heidi et l'attirant à elle.
« Et toi, ma chère Heidi, il faut que tu dises à ton tour ce que tu désires. Voyons, n'as-tu pas aussi un souhait que tu aimerais voir accompli ?»«
Oh oui, j'en ai bien un, » répondit-elle avec des yeux brillants de joie.
« Allons, c'est bien. Voyons ton souhait. Que voudrais-tu, mon enfant ?»«
J'aimerais mon lit de Francfort, avec les trois grands oreillers et la couverture épaisse. Alors la grand-mère n'aura plus la tête tout en bas. Elle pourra bien respirer. Elle aura assez chaud avec la couverture. » Et elle n'aura plus besoin d'aller au lit avec son châle, parce qu'elle a trop froid. »
Heidi, dans son ardeur d'arriver au but de ses désirs, avait débité tout cela d'une seule haleine.
« Ah, ma chère enfant, que dis-tu ? » s'écria la grand-maman émue. « C'est bien que tu me le rappelles. Dans la joie, on oublie facilement les choses dont on devrait se souvenir, en tout premier lieu. Pourtant, quand le bon Dieu nous envoie un bienfait, nous devrions tout de suite penser à ceux qui ont tant de privations. Nous allons télégraphier sur le champ à Francfort. Aujourd'hui même, Mademoiselle Rottenmeier emballera le lit. En deux jours, il pourra être ici. Et s'il plaît à Dieu, la grand-mère y dormira bien. »
Heidi, remplie de joie, se mit à sauter autour de Madame Sesemann, mais elle s'arrêta tout à coup en disant
« À présent, il faut vite que je descende vers la grand-mère. Elle prendra peur si je reste trop longtemps sans venir. »
Heidi ne pouvait plus attendre le moment de lui porter la joyeuse nouvelle, et il lui était aussi revenu à la mémoire combien la grand-mère avait eu peur la dernière fois qu'elle avait été auprès d'elle.
« Non, non, Heidi, à quoi penses-tu ? » remarqua le grand-père. « Quand on a des visites, on ne se sauve pas ainsi tout à coup. »
Mais Madame Sesemann prit le parti de Heidi.
« Mon cher grand-père, dit-elle, cet enfant n'a pas si grand tort. Voilà bien des jours que la pauvre grand-mère n'a pas eu sa part à cause de nous. Nous allons y descendre tous ensemble. J'attendrai là mon cheval et nous pourrons repartir tout de suite et télégraphier de Durfley pour le lit. Qu'en penses-tu, mon fils ?»
Jusque-là, M. Sesemann n'avait pas encore trouvé le temps de parler de ses plans de voyage. Il pria donc sa mère de s'asseoir un moment et d'attendre pour exécuter son projet, qu'il eût exprimé ses propres intentions. Il s'était proposé en venant de faire avec sa mère un petit voyage en Suisse et d'essayer si Clara pouvait se joindre à eux pour une partie du chemin. Et voilà qu'il avait maintenant en perspective le plus charmant voyage en compagnie de sa fille. Mais il fallait pour cela profiter des beaux jours de l'arrière-été. Il avait donc l'idée de passer la nuit à Durfley et de revenir le lendemain matin chercher Clara à l'Alpe pour rejoindre la grand-maman à Ragaz, et de là partir pour le voyage projeté. Clara fut un peu interdite à l'annonce de son départ soudain de l'Alpe, mais il y avait bien des plaisirs en perspective, et du reste, on n'avait pas le temps de s'abandonner aux regrets. La grand-maman s'était déjà levée et avait pris Heidi par la main pour mettre en train le cortège. Elle se retourna tout à coup. « Qu'allons-nous faire de Clara ? » s'écria-t-elle tout effrayée, en s'avisant tout à coup que la descente serait beaucoup trop longue pour elle. Mais le vieux avait déjà, comme d'habitude, pris sur son bras sa petite malade, et il suivit d'un pas ferme la grand-maman, qui fit, en les voyant, des signes d'approbation. Derrière venait M. Sesemann, et le cortège se mit en devoir de descendre la montagne. Heidi ne cessait de gambader à côté de la grand-maman, et celle-ci lui posait toutes sortes de questions sur la grand-mère, désirant savoir comment elle vivait, comment les choses allaient chez elle, surtout en hiver, par le grand froid de la montagne. Heidi la renseigna exactement sur tous les points, car elle savait bien ce qu'il en était. Elle lui raconta comme quoi la grand-mère tremblait de froid dans son coin où elle se tenait toute pelotonnée, et lui dit ce qu'elle avait, et surtout ce qu'elle n'avait pas à manger. Madame Sesemann écoutait avec le plus vif intérêt ce que lui rapportait l'enfant, et tout en dévisant de la sorte, elles atteignirent la hutte du chevrier. Brigitte était justement occupée à suspendre au soleil la seconde chemise de Pierre, afin qu'il pût la mettre dès que l'autre aurait été à ses portées. Elle aperçut la société qui s'approchait et se précipita dans la chambre.
« À présent, voilà que tout part, mère » dit-elle. « C'est comme une procession. Le vieux les accompagne, il porte la malade. »
« Hélas, est-ce bien vrai ? » soupira la grand-mère. « Ainsi donc, ils emmènent Heidi. Tu l'as vu. Si seulement elle osait venir me toucher la main, si je pouvais l'entendre encore une fois. »
À ce moment, la porte s'ouvrit avec fracas, et en trois bonds, Heidi fut auprès de la grand-mère qu'elle serra dans ses bras.
« Grand-mère, grand-mère, mon lit vient de Francfort, et les trois oreillers, et la grosse couverture. » Il sera là dans 2 jours, c'est la grand-maman qui l'a dit. »
Heidi ne pouvait assez vite faire son rapport dans l'attente de la joie immense qu'allait éprouver la grand-mère. Celle-ci sourit, mais dit avec une ombre de tristesse.
« Ah, quelle bonne dame elle doit être! Je devrais me réjouir qu'elle t'emmène, Heidi, mais je n'y survivrai pas longtemps. » « quoi donc, qui a dit à la bonne grand-mère quelque chose de pareil ?»
demanda tout près de la vieille, une voix amicale, tandis que sa main était serrée avec cordialité par Madame Sesemann, qui venait d'entrer et avait tout entendu.
« Non, non, il n'est pas question de cela. Heidi restera auprès de la grand-mère et continuera de faire sa joie. Nous voulons aussi revoir la petite, mais c'est nous qui viendrons vers elle. Nous monterons chaque année à l'Alpe, car nous avons des raisons pour renouveler chaque année en ce lieu nos actions de grâce à Dieu, qui a fait un si grand miracle pour notre enfant. »
Mais alors une véritable lueur se répandit sur le visage de la bonne vieille, qui exprima sa muette gratitude en serrant à plusieurs reprises la main de Madame Sesemann, tandis que 2 larmes de bonheur coulaient le long de ses vieilles joues. Heidi avait tout de suite remarqué le changement d'expression de la grand-mère, et sa joie fut alors complète.
« Dis donc, grand-mère, dit-elle en se serrant contre elle, c'est arrivé
comme je t'ai lu la dernière fois, n'est-ce pas? Le lit de Francfort sera bien sûr salutaire.
Oh oui, Heidi, et encore tant de choses, tant de belles et bonnes choses que le bon Dieu fait pour moi, répondit la grand-mère avec une profonde émotion. Comment est-ce possible qu'il y ait de si bonnes gens qui s'inquiètent d'une pauvre vieille et qui lui fassent tant de bien? Rien ne fortifie davantage notre foi à un bon Père céleste qui n'oublie pas la plus chétive de ses créatures que lorsqu'on voit qu'il y a des gens aussi pleins de bonté et de compassion pour une pauvre vieille femme inutile comme moi.
Ma bonne grand-mère, répondit Madame Sesman, devant notre Seigneur qui est au ciel, nous sommes tous également misérables et nous avons tous également besoin qu'il ne nous oublie pas. Et maintenant, nous allons vous dire adieu et au revoir, car l'année prochaine, dès que nous serons de retour à l'Alpe, nous viendrons visiter la grand-mère, que nous n'oublierons jamais. »
En disant ces mots, Madame Sesman saisit encore une fois la main de la bonne vieille et la secoua cordialement. Mais elle ne s'en alla pas aussi vite qu'elle l'avait cru, car la grand-mère ne cessait de remercier et d'appeler sur sa bienfaitrice et sur toute sa maison les plus précieuses bénédictions du bon Dieu. Après quoi M. Sesman et sa mère continuèrent leur descente du côté de la vallée, tandis que le vieux reprenait avec Clara le chemin du chalet et que Heidi dansait autour d'eux à la perspective de ce qui allait arriver pour la grand-mère. Le matin suivant, Clara pleura à chaudes larmes en disant adieu à la belle Alpe où elle avait été plus heureuse que jamais encore dans sa vie. Mais Heidi la consola en disant
« Ce sera bientôt de nouveau l'été, et alors tu reviendras, et ce sera encore plus beau. Tu pourras marcher depuis le premier jour, et nous pourrons monter tous les matins au pâturage avec les chèvres pour voir les fleurs, et toutes les choses amusantes recommenceront. »
Comme il en était convenu, M. Sesman était monté chercher sa fille. Il était auprès du grand-père, auquel il avait encore différentes choses à dire. Clara essuya ses larmes, un peu consolée par les paroles de Heidi.
« Tu diras encore adieu à Pierre, de ma part, » reprit-elle, « et à toutes les chèvres, surtout à Blanchette. Oh, j'aimerais pouvoir faire un cadeau à Blanchette. Elle a tant contribué à me guérir. » « Tu peux très bien lui en faire un, » répliqua Heidi. « Envoie-lui seulement un peu de sel. Tu sais comme elle aime à en lécher le soir dans la main du grand-père. »
Le conseil plut à Clara.
« Oh, alors je lui enverrai certainement de Francfort 100 livres de sel, » s'écria-t-elle joyeuse. « Il faut aussi qu'elle ait un souvenir de moi. »
À ce moment, M. Sesman fit un signe aux enfants, car il était temps de partir. Cette fois, le cheval blanc de la grand-maman était monté chercher Clara, qui, pouvant maintenant supporter cette monture, n'avait plus besoin de la chaise à porteur.
Heidi s'avança jusqu'à l'extrême bord de l'Alpe et fit de la main des signes à Clara jusqu'à ce que cheval et Amazon eussent complètement disparu à ses yeux.
Le lit est arrivé, et la grand-mère y dort si bien chaque nuit qu'elle prendra certainement de nouvelles forces. La bonne grand-maman n'a pas non plus oublié le rude hiver sur l'Alpe. Elle a envoyé à la hutte du chevrier un grand ballot contenant tant de vêtements chauds que la grand-mère pourra bien s'envelopper et ne restera plus dans son coin tremblante de froid. À Durfli, on est en train d'élever une grande construction. Le docteur est arrivé et a provisoirement repris son ancien logis. D'après les conseils de son ami, il a acheté le bâtiment dans lequel le vieux de l'Alpe et Heidi ont passé l'hiver
et qui a déjà été une maison de maître, comme on peut le voir à la grande salle avec le beau poêle et les lambris artistiques.
Le docteur fait réparer pour son usage cette partie de la maison. L'autre côté sera organisé pour servir de quartier d'hiver aux vieux et à l'enfant, car le docteur connaît le grand-père pour être un homme indépendant, auquel il faut laisser son propre logis. Par derrière, on élèvera une petite étable à chèvres bien murée et bien chaude où Blanchette et Brunette passeront confortablement la saison d'hiver. Le docteur et le vieux de l'Alpe sont de jour en jour meilleurs amis. Et lorsqu'ils montent ensemble sur les échafaudages pour surveiller les progrès de la bâtisse, leur entretien les ramène presque toujours à Heidi, car leur plus grande joie à tous deux est de penser qu'ils habiteront cette maison avec leurs joyeux enfants.
« Mon cher ami, disait dernièrement le docteur, debout, avec le vieux, au sommet d'un mur, vous devez envisager la chose comme je le fais.
je partage avec vous toute la joie que nous procure la petite, comme si j'étais après vous son plus proche parent. Je veux donc aussi partager les devoirs et pourvoir de mon mieux à son avenir. De cette manière, j'aurai aussi des droits sur notre Heidi, et je pourrai espérer qu'elle me soignera dans mes vieux jours et restera auprès de moi, ce qui est mon plus grand désir. Je transmettrai donc à Heidi tous les droits d'un enfant, et ainsi nous pourrons sans souci la laisser derrière nous quand nous devrons partir, vous et moi. » Le vieux serra longuement la main du docteur. Il ne dit pas un mot, mais son ami put lire dans ses yeux l'émotion et la joie profonde que ses paroles avaient causées. Pendant cette conversation, Heidi et Pierre étaient auprès de la grand-mère. L'une avait tant à raconter et l'autre tant à écouter qu'ils en perdaient presque haleine et se pressaient toujours plus autour de l'heureuse vieille. Heidi communiqua à celle-ci tout ce qui était arrivé durant l'été, puisqu'elle avait pu si peu descendre à la cabane du chevrier pendant ce temps. Des trois, on n'aurait pas pu dire lequel était le plus heureux, soit de leur nouvelle réunion, soit de tous les événements merveilleux qui s'étaient passés, mais le visage de Brigitte témoignait d'une joie si possible plus grande encore, car avec l'aide de Heidi, elle venait pour la première fois de débrouiller l'histoire des dessous perpétuels. Cependant, la grand-mère mit fin à toutes les causeries en disant « Heidi, lis-moi un cantique d'action de grâce. Il me semble que je ne pourrai plus faire autre chose que louer et bénir notre bon Dieu dans le ciel pour tout le bien qu'il nous a fait. »